prions d'abord et nous voulons penser donc cette semaine donc à l'opération vendredi du papa de Josias. Pensons aussi à Marie Brosil et il y a aussi Anne-Laure qui aura des traitements là, qui vont reprendre et d'autres personnes aussi hein, voilà.
Pas trop.
Ah bon, vous m'entendez pas? Prions. Notre Seigneur, nous te remercions de ces moments que tu nous accordes et nous voulons en effet te prier pour chacun qui a été mentionné, tu vois, les moments particuliers des uns et des autres et nous voulons vraiment te les apporter et te prier, Seigneur, d'intervenir, de diriger, de conduire et de fortifier chacun. Merci Père de pouvoir nous tourner vers toi et merci pour ces moments que tu nous accordes. Bénis ta parole à nos cœurs. Amen. Et là, vous m'entendez bien là? Ça va? Bon. Alors nous allons ouvrir nos Bibles dans Apocalypse 17. Apocalypse 17. Où nous avons la découverte donc de la grande Babylone. Puis un des sept anges se tenait, qui tenait les sept coupes, vint et m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta un esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abomination et d'impureté de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Alors nous savons déjà un peu dans les grandes lignes que dans la fin des temps, il y aura un antichrist, il y aura ce que la Bible appelle ici cette grande ville qui est aussi appelée, nous allons le voir, la prostituée, une ville souillée, qui est en quelque sorte une contrefaçon de l'œuvre du diable par rapport à l'œuvre de Dieu. Et l'épouse qui est donc associée à Christ, eh bien il y a cette prostituée associée à l'antichrist. Et donc, verset 18, nous lisons: la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui exerce la royauté sur les rois de la terre. Il s'agit donc d'un système qui a un grand pouvoir sur les grands et qui a un pouvoir à la fois spirituel, économique et qui a été associé, il faut bien le reconnaître, par Jan Larsen.
Alors, c'est pas Arsène, c'est le chauffage que t'entends.
Ah, pardon.
Ouais.
D'accord.
Là,
non, oui, non. Excusez-moi. Il y a eu pendant des siècles une institution à laquelle nous pensons véritablement, c'est sûr, l'Église catholique romaine, qui, nous allons le voir, récupère plusieurs aspects de la description de Babylone. Mais il est certain que à la fin des temps, il y aura donc une réelle identité qui sera associée à l'Antichrist. Et je vous cite René Pache, vous avez sa citation, qui est tiré d'un livre. Alors, si vous pouvez attraper des livres de René Pache concernant la doctrine, c'est absolument remarquable. Il a été professeur à Nogent, et ces livres sont tellement bien faits que Une fois, aux États-Unis, j'étais dans un magasin chrétien, j'ai vu son livre traduit en anglais. Alors qu'en principe, c'est l'inverse. C'est des livres de professeurs anglophones qui sont quelquefois traduits en français. Et donc, il a fait un livre sur le retour de Jésus-Christ, et il dit ceci: la prostituée symbolise la religiosité unie à la mondanité. Elle personnifie tout ce qu'il y a eu d'infidèle, d'hypocrite, d'idolâtre, de persécuteur dans le monde religieux depuis qu'il existe, mais particulièrement tel que qu'il se présentera à la fin des temps. Babylone la Grande, c'est le système mondial de confusion spirituelle, de convoitise hypocrite et de corruption ecclésiastique dans toute son horreur. Et là, nous avons donc réellement une perspective qui arrivera dans le futur, un genre de mélange, de nouvelle identité religieuse qui ira vers une pensée unique, et tout le monde s'associera et il y aura cette réalité-là. Et donc, cette femme est décrite sous les termes d'une prostituée, et donc son nom aussi, Babylone, hein, nous comprenons, vient de synonyme de confusion. Jean souligne aussi que les rois de la terre vont se livrer à la débauche avec cette prostituée. Alors, cette identité future va être en quelque sorte le prolongement et l'addition de tout ce qui a été dans le passé s'agissant de Babylone et aussi de Rome. Il y a un passage dans Genèse 10, alors je ne sais pas si c'est pas la Genèse 10, où nous avons l'origine de Babel. Vous la connaissez. Cush engendra aussi Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre, il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel, c'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel, il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéar. Et Nimrod avait appelé son œuvre, sa ville, la porte des cieux. Et donc, Babil, mais après l'échec de la tour de Babel, c'est un autre nom qui arrive, qui est assez proche en hébreu, qui signifie la confusion. Et nous allons voir aussi par cette étude qu'il y a une grande continuité dans l'histoire de l'humanité s'agissant des croyances, des religions. Vous connaissez ce verset qui dit que rien de nouveau sous le soleil, et que les choses se perpétuent, se modifient, s'amplifient, grossissent, mais en fait, si on regarde bien le passé, on a une compréhension du présent et aussi du futur beaucoup plus claire. Et nous allons voir quelques exemples dans quelques instants. Donc au début, on ne va pas revenir sur l'histoire de Babel, hein. Il est certain que l'ambition était énorme. Il s'agissait de se faire un nom, hein, et il s'agissait d'atteindre le ciel. Et donc, ça sera la base de ce qui va devenir la culture babylonienne. Et cela va se développer. Alors, il y aura des choses très, très étonnantes, des prouesses humaines, hein, que ce soit en mathématiques, en technologie, en astronomie, mais il y aura aussi un développement des idoles, et donc là, Babylone n'a rien envié aux Grecs plus tard avec tous leurs dieux, ils en ont aussi beaucoup dans toutes les situations, et ce sera Babylone aussi un siège d'occultisme particulièrement développé. D'ailleurs, pour les La tour de Babel, alors on a découvert à Babylone, dans la région de Babylone, ce qu'on appelle les ziggourats. Ce sont des bâtiments absolument impressionnants, très très grands, Et on peut imaginer une tour, hein, là, c'est, qui continuait, qui montait, et qui était quelque chose d'assez grandiose à l'époque, les gens ne voulant pas obéir à Dieu et voulant rester ensemble. Alors pour les Juifs, il faut savoir que Nimrod a une réputation de quelqu'un de rebelle. Et pour les Juifs, Nimrod a transformé son royaume en tyrannie, estimant que le seul moyen de détacher les hommes de la crainte de Dieu, c'était qu'ils s'en remettent à leur propre puissance. Alors voilà ce que disent les écoles juives. Nimrod promet de les défendre contre une seconde punition de Dieu qui veut inonder la terre. Il construira une tour assez haute pour que les eaux ne puissent pas s'élever. Alors, dans l'esprit, la compréhension juive, la tour, c'est nous allons défier Dieu, mais on va se faire une tour et si jamais il y avait un nouveau déluge, on va survivre. Et donc, le peuple était tout disposé à suivre donc les avis de Nimrod, considérant l'obéissance à Dieu comme une servitude. Alors après, va venir sur Babylone des dieux. Et il y a un dieu que la Bible mentionne, Tammuz. Dans Ézéchiel 8, nous lisons, « Il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel du côté du septentrion, et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Et il me dit, « Vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. » Alors, Tammuz, c'est un dieu dans l'histoire ancienne de Babylone qui représentait les récoltes et qui, donc, mourait chaque été et revenait à la vie à chaque printemps suivant. Donc, il avait l'image d'un dieu qui mourait ressuscité. Et donc, ce dieu, qui donc est considéré comme une abomination hein, dans la Bible, hein, va correspondre à d'autres dieux dans d'autres régions du monde, comme Adonis chez les Grecs ou Osiris chez les Égyptiens. Et ensuite, il y a encore une personne très très importante, une déesse très très importante pour Babylone, c'est Ishtar. Alors Ishtar, son nom est un peu plus connu parce que à Berlin, on a reconstitué la porte d'Ishtar. C'est ainsi qu'elle s'appelle. Donc, qui a été trouvée à Babylone. Hein. Donc ça, c'est la porte d'Ishtar, de la déesse Ishtar. Et cette déesse, vous pouvez la voir. Si vous allez au Louvre, vous la découvrirez. Voilà, la déesse Ishtar, qui est une déesse, donc ce que l'on voit au Louvre, c'est quand même c'est de la terre cuite qui date de 1800 ans avant Christ. Alors on a, côté archéologie, on a découvert énormément de choses en Mésopotamie. C'est très très riche entre les tablettes et voilà. Bon, malheureusement, ça a beaucoup souffert avec les dernières guerres. Mais Ishtar est importante parce que c'est une déesse qui va s'occuper de Tammuz qui meurt et qui renaît. Et donc, nous avons là aussi Ishtar avec Tammuz et s'installe la déesse d'une mère et d'un enfant. Et ceci est d'une grande importance parce que cette femme qui était la déesse de la fertilité aussi, et de la vie, et de l'amour, etc., porte aussi quelqu'un qui meurt, qui ressuscite. Et nous allons voir, alors j'ai pris quelques exemples, quelques photos, où le culte d'une déesse mère nourricière, mère qui donne la vie, va s'étendre partout. Vous la retrouvez en Égypte avec Isis et Horus, vous la retrouvez en Inde avec Iswara, vous la retrouvez en Grèce bien sûr, vous la retrouvez à Rome. Donc partout on retrouve la mère et l'enfant. Alors vous savez où les choses vont aboutir, hein? Bien sûr, quand l'Église romaine veut faire de l'évangélisation et voit ces déesses un peu partout, eh bien, ils vont changer simplement les noms. Et donc, ça va devenir Marie et Jésus. Pour ne pas heurter les populations idolâtres. Et nous allons voir encore deux ou trois autres exemples dans quelques minutes, où la stratégie romaine, enfin, c'est une évangélisation assez spéciale, où même les... Enfin, tout devient chrétien. Vous changez pas, mais on change juste les noms et on adapte ce qui est et on le christianise en quelque sorte. Et la déesse Ishtar est aussi appelée, bien sûr, à Babylone, la reine du ciel. La reine du ciel. Ainsi, nous avons des passages dans la Bible où, justement, des siècles avant Christ, hein, quand Babylone était très important, Jérémie 7,18, « Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et faire des libations à d'autres dieux afin de m'irriter. » Et nous voyons déjà, dans l'Ancien Testament, par Tammuz, que nous avons vu dans Ézéchiel, et par Jérémie, que l'influence de la religion de Babylone pèse. Et parfois, les Juifs ont envie de suivre ces pratiques-là. Il y a un autre passage que nous pouvons voir dans Jérémie 44, 16 à 19. Alors là, c'est un passage terrible parce que c'est la réponse du peuple à Jérémie. Alors, ça vaut la peine de le regarder. Jérémie 44, verset 16. « Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. » Alors, bon, voilà, l'homme de Dieu arrive, il dit « N'allez pas vers ces idoles, etc. » « Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel. » Voilà ce que nous voulons. « Et lui faire des libations, comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois, nos chefs, etc. » Et quand eux le faisaient, ils avaient du pain. Alors, nous aussi, nous voulons recevoir la bénédiction de ces dieux. Et il est dit au verset 17 et 18, « D'ailleurs, lorsque nous offrons de l'encens à la reine du ciel, que nous lui faisons des libations, est-ce sans la volonté de nos maris que nous préparons des gâteaux ?» Voilà, nous le faisons avec la permission des maris, donc c'est vraiment quelque chose de déterminé quand ces femmes venaient reprocher à Jérémie son message. La reine du ciel. Ainsi, une fois installée, Marie et l'enfant sera aussi bien sûr adorée, mais quand on regarde de plus près, toutes les présentations de Marie dans le premier millénaire, c'était une femme assise sur un trône. Et Jésus est à la fois adulte et enfant, un peu à la Tammuz. Mais il n'est pas toujours tout petit. Enfin, mais ce que nous voyons là, à différents endroits, ce sont des trônes. Et d'ailleurs, officiellement, l'Église romaine dit que Marie est la reine du ciel. Alors, on peut regarder, je voudrais que quelqu'un cherche Apocalypse 18, 7 et 8, et que quelqu'un d'autre nous lise Ésaïe 47, 7 et 8. Alors, quelqu'un lira Apocalypse 18, 7, 8. Tout le monde est poli ce soir, c'est...
Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant dans une vie de tourment et de deuil, parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point d'avis, et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ses fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a jugée.
Vous voyez, là, la Babylone, est, on lui reproche dans l'Apocalypse d'être en reine, hein, c'est une reine. Et quand il y a eu la destruction et les prophéties sur Babylone d'autrefois, alors lisons Ésaïe 47, 7 et 8. Ça suffit. Voilà. Donc, nous voyons là, alors, les prophéties et l'histoire de Babylone dans le passé, nous voyons progressivement, c'est comme s'il y avait des doubles portées. Une portée assez courte qui va arriver assez vite sur Babylone. Et le message de Jérémie en profite aussi pour que ça se colle parfaitement à la fin des temps. Et nous voyons cette double lecture, double application, qui est un principe aussi pour comprendre les prophéties de l'Ancien Testament. C'est ainsi que, on a souvent cité cet exemple, que parfois David vivait des situations, il les décrit dans les psaumes, et puis on voit que ça avait une portée sur lui, sur sa génération, et ça va devenir un psaume messianique sur Christ. Et là, ce qui est pointé du doigt sur Babylone va être vécu par Babylone dans les années 530 avant Christ et va être vécu aussi à la fin des temps. Mais, j'ai mis dans mes notes là, pause et réflexion. Je voudrais faire une pause et une réflexion qui est quand même très très importante parce que je pense qu'on pourrait... En y réfléchissant, se dire, bon, ben finalement, les religions s'influencent et se nourrissent les unes des autres. Alors, c'est vrai dans un certain sens, mais paradoxalement, nous devons reconnaître que l'enfance de Jésus est pratiquement éludée des évangiles. Il n'y a rien. Le sujet de la Vierge à l'enfant est un thème qui est encore plus représenté dans l'art que la croix. C'est énorme, hein ? Alors qu'il n'y a aucune référence de texte. Et on peut dire... Et c'est là où il faut s'arrêter, se faire la réflexion, que ces statues que nous voyons, c'est le fruit d'une réutilisation d'un thème existant, d'abord à Babylone, mais dans ses formes et ses apparences. Ce n'est pas parce qu'il existait des déesses à Babylone qu'a été créé l'évangile. Parce qu'on a, on pourrait avoir deux interprétations. Babylone est une prostituée, c'est une institution qui a abandonné le vrai, Et l'esprit du mal a toujours été de caricaturer et d'imiter le bien. Soit au même moment, soit rétroactivement, soit par anticipation. Et je suis absolument convaincu que toutes ces fausses religions ont été en quelque sorte inspirées diaboliquement pour casser la réalité du message évangélique. Alors, qu'une institution romaine se disant chrétienne reprenne des éléments dans la forme pour un petit peu christianiser en quelque sorte l'habitude de nombreux peuples, est une stratégie, mais qui ne remet jamais en cause la réalité du miracle de la venue de Christ, et ce n'est pas une dépendance aux religions, ce que la Bible révèle et indique. Alors c'est vrai que le Sauveur viendrait naître d'une vierge, c'est vrai. L'Église s'est prostituée dans le sens où elle a cherché à adapter la réalité et son trésor à elle en rapprochant le message des réalités païennes. Voilà, ça c'était ma pause et ma réflexion. Je crois que c'est important parce que le christianisme n'est pas le fruit du paganisme. Le vrai christianisme. La religion, oui. Voilà, je ne sais pas si c'était clair. Si vous voulez ajouter ou demander quelque chose, faites-le, il n'y a pas de souci.
En fait, derrière tout ça, c'est le diable, en réalité. Qui est l'instigateur de toutes ces choses-là. Et le diable connaît la prophétie.
Il en connaît, voilà. Ouais, ouais.
Il connaît la réalité. Il sait que, d'après Genèse
3.15,
oui, 3.15, que la postérité de la femme écraserait la tête du serpent.
Voilà.
Donc, il a tout préparé pour que ça soit pour caricaturer de telle façon que le message, le véritable message biblique, soit noyé dans une obscurité telle que les gens.
Voilà.
Oh, mais de toute façon, c'est pas vrai, regardez.
C'est ça.
Voilà. Donc, en fait, le diable, tout ça derrière, tout ça, c'est le diable en réalité. Il connaît tellement la prophétie qu'il la caricature à l'avance pour que les gens n'y croient pas.
Voilà, c'est ça. Tu as bien résumé ce que je viens de dire. Alors, quand on regarde les choses superficiellement et de loin, on dit bon, c'est blanc bonnet blanc. Il y a des similitudes. Mais en fait, dans la réalité, quand on s'approche d'un peu plus près, on s'aperçoit aussi que certaines similitudes, ce sont des stratégies humaines par le clergé, malheureusement, qui ont vraiment poussé. Ont abandonné la vérité et ont mis en place des stratégies humaines, mais qui sont vraiment contraires à l'Évangile. Alors maintenant, nous allons voir, est-ce que certains pensent que la Babylone, qui va redevenir vraiment au premier plan dans le futur, sera la Babylone littéralement qui est dans l'Irak actuel, hein. Alors certains chrétiens le pensent, hein. En tout cas il y a quelqu'un qui le pensait vraiment, c'est Saddam Hussein. Lui il le pensait vraiment, hein. Et donc il se voyait vraiment comme le successeur de Nebuchadnezzar, et il était persuadé, justement, en étant le successeur, qu'il allait écraser et faire disparaître Israël. D'ailleurs, j'ai gardé là, j'ai un article du Point de avril 1990. Alors, des rêves de grandeur dont témoigne la restauration de Babylone, une architecture officielle à mi-chemin entre le réalisme socialiste et le néoclassicisme mussolinien, des rêves qui alimentent un culte de la personnalité. Voilà, parce qu'il se considérait comme le continuateur légitime de l'empire babylonien. Et c'est vrai qu'il a fait des travaux immenses pour restaurer et essayer de à nouveau faire revivre Babylone. Alors nous allons lire maintenant au chapitre 17, verset 9. Si quelqu'un veut lire verset 9 à 11... Alors dans cette zone de texte, on s'est demandé, ben justement, là, les sept collines, on voit, beaucoup y voient la désignation de Rome, puisque la ville est bâtie sur sept collines. Et l'Empire romain, nous allons le voir, va reprendre beaucoup, sur le plan religieux, des choses païennes, et l'Église va s'installer. Alors, évidemment, quand les catholiques disent « mais non, les sept collines, c'est César », mais pour les chrétiens, c'est aussi l'Église, pour certains chrétiens. Hein. Et je pense que c'est les deux à la fois. Alors, il y a des rois. On a expliqué cinq n'y sont plus, un existe encore, l'autre n'est pas venu. Les sept rois, on a pensé que c'était l'Égypte, la Syrie, Babylone, les Mèdes et des Perses, les Grecs, Rome et enfin l'Antichrist. Quand Jean a écrit le texte, cinq sont déjà tombés, le sixième Rome est là et le septième viendra plus tard. Alors il y a maintenant des points assez importants que Dieu reproche. L'immoralité, la corruption, hein, c'est avec elle, verset 2, que les rois de la terre se sont livrés à l'immoralité, et c'est du vin de sa prostitution que les habitants de la terre se sont enivrés. Perversion des mœurs, sensualité débridée, etc., etc. Je ne vais pas détailler, j'ai eu l'occasion d'en parler un petit peu un dimanche matin, mais si on reprend l'histoire de l'Église romaine, la succession des papes, hein, à un moment donné, ils l'étaient de père en fils, les papes, hein, et c'est pas pour rien. Donc, il y a tellement d'exemples. Et aujourd'hui, j'ai cité le dimanche matin, donc les plus de 350 000 victimes d'enfants. Hein, mais ça, c'est rien qu'en France. Et l'équivalent pourrait être fait dans tous les pays. Donc ça fait quelque chose d'énorme. Donc je voudrais dire quelques mots de plus quand même sur un autre aspect qui caractérise cette identité de Babylone qui a été, qui est et qui sera alors à son apogée dans la prophétie. Verset 6 du chapitre 17, « Je vis cette femme ivre du sang des saints. » Ivre du sang des saints. Donc, des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'étonnement. Et dans l'Apocalypse 18, on retrouve aussi ce détail. On a trouvé chez toi le sang des prophètes. Et on peut se demander comment la chrétienté, ce système religieux, a pu être à l'origine d'un tel désastre. Il existe Un théologien du 19e siècle, Sir Robert Anderson, un exégète, qui a écrit « Au cours de l'histoire de l'Église romaine, il a été noté qu'elle est responsable de la mort de plus de 50 millions de témoins de Christ. » C'est énorme. Et à l'échelle mondiale, il y aura encore une Saint-Barthélemy à une autre échelle. Les disciples de la dernière heure vont vivre littéralement cette parole du Seigneur : quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. C'est ce que dit l'Évangile. Et ce système religieux était persuadé de balayer l'hérésie. Vous connaissez l'ordre, vous avez entendu parler des Dominicains, l'ordre des Dominicains, qui sont des alliés des inquisiteurs, fondés par quelqu'un né en Castille, Dominique Guzman, et qui est affolé de voir des gens quitter le système pour aller vers la Bible. Mais ils veulent combattre l'hérésie. Et ils se glorifient d'être des Dominicanes, qui veut dire les chiens du Seigneur. Les chiens, ça veut tout dire. Ils sont prêts. Voilà. Voilà. Donc, c'est, ils veulent mordre. C'est pour ça qu'il y a cet ordre. Alors, il y a eu le massacre de la Saint-Barthélemy. Donc, et le pape Grégoire VIII était très content parce que tous les protestants étaient réunis sur Paris pour le mariage d'Henri IV. Et donc là, il y aura un massacre ordonné donc par Charles IX. Et le pape est tellement dans la joie d'avoir massacré, de voir le sang des martyrs couler, qu'il va faire... Voilà, graver une médaille, chercher le mot, graver une médaille, la voici. Et vous savez que cette médaille, vous pouvez la voir. À Orthès. Voilà, il y en a une. Une des médailles du pape se trouve à Orthès. Mais si vous allez à Rome, alors je ne sais pas si quelqu'un a déjà visité le Vatican. Personne. On ne vous a pas invité. Voilà. Vous allez découvrir des tableaux. Des tableaux qui rappellent la Saint-Barthélemy. Et où on voit là l'amiral de Coligny qui est défenestré. Donc ces tableaux... voilà. Et là, on voit Charles IX qui approuve le massacre. Ces tableaux se trouvent dans une grande salle qui s'appelle la salle royale à Rome. La voilà. Et les tableaux sont là. Donc c'est la salle royale, c'est une salle d'honneur. C'est l'antichambre de la chapelle Sixtine qui est destinée aux audiences et c'est là que le pape reçoit les cardinaux. Et voilà, ils sont là, ensemble, tout heureux, là, de leurs exploits. Ivres du sang des saints. C'est assez terrible. D'ailleurs, quand Jean reçoit la vision de l'Antichrist et de ce qu'il fait, c'est normal. Mais quand il reçoit la vision de cette femme prostituée qui est ivre du sang des saints, la Bible dit que je fus saisi d'un grand étonnement. Parce que ce n'est pas dans l'ordre des choses. Et bien sûr, la Babylone a été et sera aussi nourricière de l'occultisme. Alors, mais comment une église peut en arriver là Verset 2, 18, 2. Elle est devenue l'habitation de démons, un repère pour tout esprit impur. Alors qu'il nous est bien dit dans le Deutéronome de ne pas évoquer les morts, de ne pas, voilà, de bien faire attention, hein, mais nous savons que c'est pas tout à fait ce qui se passe dans la pratique. Mais tout a l'air chrétien, religieusement estampillé du christianisme. Savez-vous ce qu'est ce bâtiment ? Si quelqu'un est allé à Rome, vous devez le savoir. C'est le Panthéon, le fameux Panthéon d'origine. Car les Romains ont recueilli tous les dieux et les déesses de partout. Ils n'étaient pas difficiles, et ils recueillaient les... Voilà, ils étaient très polythéistes, les Romains. Pourvu qu'on adore aussi l'empereur, mais on pouvait adorer les dieux. Et donc, tous ces dieux ne pouvaient pas, à Rome, il n'y avait pas assez de temples pour tout le monde, alors ils ont fait ce panthéon pour accueillir tous les dieux. Hein? Donc, d'où le mot panthéon qui veut dire le temple des dieux. Mais, sous le règne de l'empereur Phocas, Rome est devenue chrétienne, l'empire romain s'est christianisé, et le pape Boniface va obtenir de l'empereur la permission de dégager toutes les idoles. Mais quand même, ils vont garder le principe. Et vous savez, ce qu'ils vont faire, ils vont dédier les lieux à Marie, la reine du ciel, et à tous les martyrs. Et tous les martyrs vont devenir les saints que l'on viendra adorer au lieu d'adorer les idoles. Donc ils vont changer le décor, mais ne pas changer l'exécution et la pratique. On adore les saints. Et c'est de là qu'est partie la Toussaint. Vous voyez ? Qui est une fête en l'honneur de tous les saints, mais dans l'esprit catholique, on invoque les saints. Parce que le principe est le suivant, je l'ai lu dans le catéchisme, c'est que comme ils ont un excès de vertu, ils peuvent nous en donner à nous qui en manquons. Voilà, ça rétablit un peu l'équilibre. Vous voyez ? Donc ils intercèdent pour nous. Mais en fait, ce qui se passe, si on est éclairé par la parole de Dieu, ils invoquent des morts. Et c'est de l'occultisme. Vous voyez, c'est terrible. Bon, il faut que j'avance. Oula, tu m'en dis, je suis qu'à la moitié. Oh là là, comment je me suis dit. Et Deutéronome 18-10, cochez ce passage de Deutéronome 18-10, hein, qu'on ne trouve chez toi personne qui soit un chanteur, qui évoque les esprits, qui dise la bonne aventure, qui interroge les morts. Tu seras l'Éternel entièrement, à toi ton Dieu ne le permet pas. Apocalypse 18-23, la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. Parce que tes marchands étaient des grands de la terre et que toutes les nations étaient égarées par tes enchantements. Et la Babylone future va égarer le monde par ses enchantements. Alors, à enchantement, le mot grec c'est pharmakeia, donc qui donne pharmacie. Pourquoi ? Parce que pharmacie, ça veut dire poison. Si vous allez à la pharmacie acheter quelque chose, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est du poison. Poison qui guérit. C'est ou l'un ou l'autre. Hein ? Enfin, c'est une substance étrangère qui est censée aider. Hein ? Mais le sens de pharmakeo est aussi sorcellerie, art magique, déception et séduction de l'idolâtrie. Et donc l'idée, c'est qu'on est égaré par ces enchantements, par cet état d'esprit qui est assez glauque, qui est assez ténébreux, qui est assez triste, qui est assez pesant, qui se nourrit de superstitions, d'incertitudes, d'inquiétudes. Et vraiment, c'est d'une... Voilà ce qu'a nourri aussi le système romain. Alors, entre parenthèses, là ce sont des choses bibliques. Je vais vous montrer quelque chose de moins, pas moins sérieux, mais enfin, quand même, c'est pas très futé, ce qu'a fait l'Église. Alors, voilà Rome. Vous voyez Rome, vous voyez ce bâtiment? C'est un bâtiment moderne qui a été créé dans les années 70. Et ce bâtiment, on se demande ce qui leur est passé par la tête. C'est une salle d'audience et le pape reçoit là. Et quand on le regarde d'un peu plus près, alors en plus il a maintenant des panneaux solaires, on dirait des écailles presque. Et certains se sont dit, mais on dirait la tête d'un serpent. Et on a fait le rapprochement, hein, avec la tête d'un serpent, avec les yeux sur les côtés. Quand on est dedans, les perspectives sont étranges. C'est une atmosphère bizarre dans cette salle. De plus, quand on est là-bas, quand on est sur le podium, ça c'est la résurrection de Christ, qui est le fruit d'une explosion. Et l'idée du trône papal, c'est manifester l'angoisse de l'humanité au XXe siècle, qui est sous la menace d'une bombe atomique. Et donc là, c'est l'explosion qui a lieu, tout vole en éclats, les esprits sont libérés, etc. Et Jésus-Christ surgit au milieu de ce chaos. Alors, voilà, donc c'est... Je ferme la parenthèse, c'est un peu anecdotique, il faut pas le prendre, c'est pas ça, c'est pas des bases d'analyse sérieuse, mais je trouve ça quand même assez assez parlant en lui-même. Mais voilà comment les gens imaginent le Seigneur ressuscité, hein. C'est, et je pense que si on avait mis un tel décor dans notre salle, ça aurait plombé l'atmosphère quand même, hein. Ça n'aurait pas été heureux. Mais voilà, c'est ce qui se passe. Alors, matérialisme, impudence, orgueil, elle est habitée de pourpre, d'écarlate, hein. Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or qui enivrait toute la terre, les nations ont bu de son vin. Et les nations ont été en délire. Et puis, la chute va venir. Une chute terrible va venir. Et nous allons voir, par exemple, Ésaïe 51, verset 63. Jérémie, pardon. Quand tu auras achevé la lecture de ce livre, tu attacheras une pierre, parce que Jérémie avait parlé. Et quand il a fini de parler, voilà. Tu attacheras une pierre et tu le jetteras dans l'Euphrate. Donc, sachez que le livre de Jérémie a été porté à Babylone. Il a été lu devant les autorités et puis il a été jeté dans un fleuve. Qu'est-ce que vous auriez fait d'un livre, d'un parchemin? Ben lui, il a fallu le jeter. Et cela, pour donner une correspondance à quelque chose qui arrivera à la fin des temps. Hein? Que dit Apocalypse 18-21? Lorsqu'un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et la jeta dans la mer en disant « Ainsi sera précipité avec violence Babylone. Babylone sera aussi jetée à la fin des temps. » C'est intéressant de voir tout d'un coup le parallèle. Et parce que Babylone aura été un tel objet de scandale parmi les nations. C'est ce que le Seigneur dit d'ailleurs quand il dit, Matthieu 18,6, si quelqu'un est scandalisé, il vaudrait mieux qu'on prenne une meule, qu'on attache à cette meule à son cou et qu'on jette le tout dans l'eau, hein, dans la mer. Il y aura du silence. Apocalypse 18,22, on n'entendra plus chez toi le son des joueurs de harpe, des musiciens, des flûtes, etc. Silence, c'est fini. Tout s'arrête. Et ce silence futur sera un juste retour des choses du silence qu'a proposé Babylone sur Israël, puisque nous lisons dans Jérémie 25, 10 et 11, « Je ferai cesser parmi eux le cri de réjouissance, les cris d'allégresse, les chants des fiancés, de la fiancée disparaîtront. Tout deviendra une ruine, un désert, etc. » Ensuite, il y a un appel, il faudra se séparer. Jérémie 51, 66, « Fuyez de Babylone et que chacun sauve sa vie de peur que vous ne périssiez dans sa ruine, car c'est un temps de vengeance. » Et c'est un point important. C'est un point très très important parce qu'il faut vraiment se démarquer. Alors, dans le Nouveau Testament, que nous dit, quelle est l'équivalence ? Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'eux ». Donc, c'est la raison pour laquelle on n'est pas œcuménique. Nous devons être distants de tout ce qui ne correspond pas à la parole de Dieu. Ça ne fait pas toujours plaisir, c'est pas toujours compris, c'est pas à la mode. Mais on sent une aspiration à gommer les choses originales pour avoir une tolérance générale et que l'on soit pris dans un tourbillon général. Ce serait un peu... On pourrait développer ça, mais voilà, on n'a pas le temps. Il y a aussi la rapidité. Ça va s'écrouler très vite. Et pourtant, ça dure depuis si longtemps, Babylone. Mais à un moment donné, ça va s'écrouler très très vite. Apocalypse 18, 16. Donc... exactement comme Babylone autrefois. Les Mèdes et les Perses ont asséché une rivière, ont pénétré tranquillement et ils ont éliminé tous les responsables et ont tué tous les responsables. Alors je vais terminer, puisque c'est déjà 8 heures, je vais terminer. Donc peut-être je vous enverrai, j'ai... aussi des points de comparaison entre l'église et la prostituée, c'est intéressant, enfin des contrastes, hein. Mais là j'ai pas le temps de les donner, mais je voudrais terminer par Apocalypse 19. J'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait Alléluia, le salut, la gloire et la puissance à notre Dieu, parce que ses jugements sont grands, sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche. Et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Alors, je vous le donnerai la semaine prochaine, là, en début d'étude, la comparaison entre l'Église et la prostituée. Mais ici, nous avons le chant de délivrance. Alléluia. Donc vous savez ce que ça veut dire, Alléluia. Ce sont des mots hébreux. Hein. Allélu, loué, et Yah, qui est une réduction de Yahvé. Donc louer l'Éternel. Alléluia se trouve 4 fois dans l'Apocalypse. Parce que Babylone est tombée. Et on ne le retrouve nulle part dans le Nouveau Testament. C'est d'une sobriété incroyable. Bibliquement, Alléluia est délimité par l'écroulement de Babylone. Alors qu'aujourd'hui, des Alléluia, on en a partout, à tout moment. Le chrétien utilise énormément ce mot. Mais en fait, ce mot est destiné à faire exploser de joie les gens qui voient enfin le sang des martyrs vengés de cette prostituée. C'est très étonnant. Alors attention, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas louer l'Éternel. Hein. Mais je voudrais simplement souligner la sobriété du mot qui ne se trouve nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament. Je ne sais pas si vous le saviez, cela. C'est très, très très peu. Après, bien sûr, vous avez les psaumes. Hein, les psaumes... Et il y a Donc, dans les psaumes, des psaumes de louange particulièrement, hein, qui s'appellent Hallel, hein, quelques psaumes qui commencent ou qui finissent par louer l'Éternel. Hein. Donc, vous savez qu'en hébreu, les psaumes s'appellent le livre des louanges. Psaume, c'est un mot grec qui veut dire pincer des cordes. Donc, ça c'est bien pour les guitaristes et les harpistes et tous ceux qui pincent des cordes. Mais, bien sûr, nous devons louer Dieu. Mais c'est bien de replacer le mot Alléluia dans son contexte premier. Son contexte, c'est... Alors, si vous faites tomber une idole, si vous vous arrachez d'une emprise de Babylone, vous avez particulièrement le droit de crier Alléluia. Déjà, hein, c'est ça qui est important. Et il y a des psaumes, alors peut-être une précision, là je voulais dire rapidement, les psaumes 113 à 118 sont désignés sous le nom de Hallel, hein, et donc particulièrement. Et il y a aussi les psaumes 113, 114, qui sont chantés dans certaines circonstances. Donc il y a quelques psaumes comme ça qui sont donnés, qui sont connus pour la louange. Donc pour les Juifs, 113 à 118 forment le grand Hallel, la grande louange à Dieu, et les psaumes 145 à 150, c'est le petit Hallel. Le grand Hallel, c'est pour les grandes fêtes, Pâques, tout ça, pour les grandes cérémonies. Et les autres psaumes, pour d'autres circonstances. Voilà. Voilà, nous allons nous arrêter là, puisque l'heure est passée. Et bon, j'espère qu'on a pu quand même couvrir l'essentiel. J'ai sauté un ou deux chapitres. Je vous en donnerai un la semaine prochaine sur ce thème. Peut-être que je vais demander à Jean s'il veut bien prier pour... clôturer, merci.
Seigneur, dans tous les cas, nous voulons te bénir, nous voulons nous prosterner devant toi. Parce que Seigneur, tu nous as tout écrit à l'avance, Seigneur, dans notre souci. Après, Seigneur, que nous ayons cette espérance de toi, parce que c'est des événements qui sont véritablement tristes, mais Seigneur, il y a la grande espérance de ton retour. Et là, Seigneur, nos cœurs sont vraiment remplis de joie, en sachant que, Seigneur, tu reviens bientôt pour régner sur cette terre où il y a ces frères, la Babylone, où il y a cette confusion, Seigneur, cet esprit de mélange, de mensonge mêlé à la vérité. Seigneur, nous prions la foi pour que tu puisses nous donner des cœurs qui sortent du milieu d'elle, Seigneur. Des cœurs qui ne veulent pas, Seigneur, admettre cet amalgame entre la vérité et le mensonge, Seigneur, que nous prions à toi. Parce que tu nous as mis en garde, et particulièrement ce soir, Seigneur, nous voulons vraiment te remercier et te demander, Seigneur, que nous puissions véritablement être sur nos gardes et ne pas vraiment se laisser entraîner par le grand nombre, Seigneur. Mais toujours à contre-courant, Seigneur, parce que tu es la vérité, nous ne pouvons pas supporter qu'il y ait un mélange avec la vérité. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as donné ce soir. Nous te demandons, Seigneur, de continuer à nous parler, de continuer à nous inspirer, Seigneur, et que nos cœurs soient véritablement attachés. Merci de nous raccompagner aussi d'être avec chacun. Merci d'être avec tous ceux qui n'ont pas pu venir, Seigneur, d'être avec eux, de les soutenir aussi, Seigneur, dans leurs besoins. Bénisse toi, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Amen.